Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Dieu est bon, on arrive à la fin de la thématique sur les fondamentaux avec l'Épître aux Romains. Je ne sais pas comment vous avez vécu ces quelques semaines. Je pense qu'on aura l'occasion d'entendre certains témoignages, de certaines choses vécues, de ce que le Seigneur a pu rétablir, établir, approfondir, fonder en nous. Et puis ce matin, donc on a les trois derniers chapitres. Je dis trois parce que je dois quand même m'excuser. C'est vrai que dans le programme qui avait été établi, on a envoyé des questions de réflexion jusqu'au chapitre 15, alors qu'il y en a 16. Alors pardonnez-nous, pardonnez-moi surtout. Mais donc du coup, on va pouvoir aller jusqu'au chapitre 16 ce matin. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le lire. Il y a beaucoup de salutations, mais aussi des bonnes choses. Et on va en explorer quelques-unes ce matin. Et comme les chants de la louange nous ont conduits, c'est vrai que dans ces chapitres, en tout cas 13 à 16, Paul parle beaucoup de la question de comment se vivre en société et aussi vivre en communauté. Donc alors qu'il a abordé des choses plutôt de la dogmatique, des questions de la foi, des fondamentaux de la vie de disciples, on voit que la communauté clairement en fait partie. Et vu que les églises de Rome ont des défis très importants, eh bien, il finit cette lettre aux Romains sur la question de la communauté. Et donc, il commence avec la question des autorités. Et donc, dans le chapitre 13, alors, est-ce que ça a marché? Voilà. J'ai commencé par lire donc Romains 13, les versets 1 et 2, où il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est assez strict ou sévère comme constat. Et ce qui est particulier, c'est que là, dans ces premiers versets, en fait, il parle plutôt des autorités politiques, n'est-ce pas ? Donc on est dans un contexte de persécution, où aussi les chrétiens ont de la peine à pouvoir vivre leur foi. Mais Paul demande quand même qu'il y ait quand même un respect envers les autorités, et il dit même que toute autorité forcément vient de Dieu, que Dieu permet que des autorités, quand bien même qu'elles ne soient pas forcément très gentilles avec nous, en fait, méritent une autorité, que quand on s'oppose aux autorités que Dieu a établies, en fait, on s'oppose à lui. Et donc, je réfléchissais à d'autres exemples bibliques où des personnes frontalement ont résisté au fait de s'opposer à des autorités, puis j'ai repensé à David. Comme vous savez, David était roi d'Israël, mais avant d'être roi d'Israël, il a été quelque part le subordonné d'un autre roi, qui s'appelait Saül, un roi établi par Dieu, n'est-ce pas ? Mais qui, à un moment donné, son cœur a bifurqué, il est rentré dans une désobéissance, et par jalousie de ce que Dieu faisait dans la vie de David, en fait, Saül l'a pourchassé. David a dû fuir, voilà, pendant des années. Et donc Saül a mené une partie de sa vie à vouloir pourchasser l'homme selon son cœur. Et donc David a eu en tout cas deux occasions de s'en prendre à Saül, qu'il menaçait sa vie, mais il a décidé de ne pas le faire. Et il y a deux passages dans 1 Samuel 24 et 26, vous pouvez noter si ça vous intéresse, où David aurait très bien pu même se défendre contre les attaques de Saül, mais a décidé de ne pas le faire. Et pourquoi ? Parce qu'il avait conscience que toucher à ce qu'il dit être un oint de Dieu était un péché. Donc lui-même, bien avant les lettres de Paul, savait que s'en prendre à des personnes qui avaient été établies par Dieu comme autorité était mauvais, était un péché, pas contre ces personnes, mais un péché contre Dieu. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est quand même un cœur particulier, hein, d'être en danger, d'avoir quelqu'un qui te pourchasse, quelqu'un que tu as servi, qui commence à s'opposer à toi. Il aurait été légitime de se défendre, mais il ne l'a pas fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'en dit Jésus, n'est-ce pas ? Parce que Jésus aussi a dû faire face à des autorités religieuses, n'est-ce pas, qui s'opposaient à son ministère, qui le remettaient tout le temps en question et qui remettaient même en question son autorité. Et en fait, en regardant dans les évangiles, je me suis rendu compte que Jésus, à aucun moment, n'a remis en question la fonction des autorités qui s'en prenaient à lui. Même Jésus, Messie, roi des rois, seigneur des seigneurs, n'a jamais remis en question la fonction des pharisiens, la fonction des autorités politiques, Ce qu'ils remettaient en question n'était pas leur fonction, ils remettaient en question leur intégrité. Le fait qu'ils soient hypocrites, le fait qu'ils soient religieux, ou le fait aussi qu'ils soient ignorants. On le voit avec Nicodème, quand Nicodème veut comprendre qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance, Jésus lui dit, mais toi qui es maître de la loi en Israël, tu ne sais pas ce que c'est la nouvelle naissance. Comment peux-tu être ignorant ? Donc il n'a pas un problème avec les autorités. Le problème, c'est l'intégrité. La capacité pour certaines autorités de mener des choses ou avoir un cœur totalement détourné de Dieu. Donc c'est une leçon aussi en tant que chrétien, que ce soit dedans ou en dehors de l'Église. Parce que dans l'Église, on peut des fois ne pas être d'accord avec le leadership, ça c'est normal, ça arrive. Mais quel est notre comportement ou comment arrive-t-on à amener des choses qui ne vont pas, de manière à ne pas faire des choses qui peuvent ne pas plaire à Dieu ? Et pareil à l'extérieur, vis-à-vis, je ne sais pas moi, de l'État, le fait simplement, je ne sais pas, de payer ses impôts, n'est-ce pas ? Je ne parle pas de personnes qui ont vraiment des difficultés financières, le but ce n'est pas d'accabler qui que ce soit ici, mais de volontairement faire des choses contre les autorités parce que je n'ai pas envie que. Même quand ces autorités, des fois, de plus en plus, en fait, mènent peut-être des lois ou des choses qui vont de plus en plus à l'encontre peut-être des chrétiens ou de ta foi. Quel comportement adopter ? Dans le Nouveau Testament, on voit aussi que Pierre, alors que Jésus est au jardin de Gethsémané, qu'il arrive aux prémices, disons, de sa passion, on vient l'arrêter et Pierre, dans un coup de sang, décide de sortir son épée et de couper l'oreille d'un serviteur. Il pensait bien faire. Mais même en faisant bien, Jésus le reprend. Il comprend qu'il n'a pas à faire ça. Parce qu'au fond, Jésus sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas ? Et exactement, selon son plan, exactement, et le plan de Dieu, c'était quoi ? C'est que Jésus puisse aller à la croix, mourir, ressusciter. Donc même quand les choses paraissent mal se passer, que les autorités sont de plus en plus strictes, que les choses se resserrent, Dieu a un plan précis. Et son plan pourvoit à sa gloire. N'est-ce pas ? Alors, j'encourage quelqu'un dans la situation peut-être que tu vis, avec peut-être des autorités qui, voilà, peut-être font des choses contre toi, ou peut-être tu as des désaccords, de garder un caractère qui plaît à Dieu. Et si nécessaire, peut-être amener des points, mais les amener sans manquer d'honneur, parce que finalement, il est question de ça. C'est le fait de manquer d'honneur. Même Jésus a réussi à tenir cela. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a rien que Jésus nous demande qu'il n'ait fait lui-même. Et on en a encore la preuve ce matin. Quelques versets suivants, toujours dans Romains 13, les versets 7 et 8, il est dit « Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte que vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Il y a une sorte de légende urbaine qui a traîné pendant des années, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais apparemment, il y a des chrétiens, sous prétexte d'être enfants de Dieu, prenaient les transports avec un titre demi-tarif. Parce que les titres demi-tarif sont pour les enfants, et donc sous prétexte d'être enfants de Dieu, en fait, prenaient des tickets en demi-tarif et se justifiaient auprès des contrôleurs en disant « Mais moi, je suis enfant de Dieu, donc j'ai droit au demi-tarif. » Donc, oui, il ne faut pas user de son identité pour manipuler, n'est-ce pas ? Ce n'est pas bien. Donc, comme j'ai dit avant, c'est important de respecter aussi les autorités, de faire preuve d'honnêteté, n'est-ce pas, dans ce qui est dû. Mais en même temps, on n'a pas que des droits. On n'a pas que des devoirs, pardon. On a aussi des droits. Et Paul connaissait ses droits. En tant que citoyen romain, à un moment, il devait être jugé. Puis il dit, en fait, ce n'est pas normal ce qui se passe là. Moi, je connais mes droits. Donc, on n'est pas seulement chrétien. Certains d'entre nous, on est suisse, peut-être d'autres origines. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire. Même quand Jésus nous invite à ne pas tendre l'autre, à tendre l'autre joue, il ne dit pas qu'il ne faut pas se défendre. Il dit qu'il ne faut pas se venger. C'est ça le problème. Le problème, c'est la vengeance. Mais connaître ses droits, devoir aussi, en fait, honorer sa propre intégrité, ce n'est pas un péché. Donc on n'est pas fait pour absolument tout devoir accepter ou supporter, n'est-ce pas ? Quand on pense à l'Église persécutée, il y a quelques semaines, il y avait un dimanche consacré à l'Église persécutée. Les chrétiens persécutés dans certains pays sont hors la loi, parce qu'ils n'ont pas le droit de répandre l'Évangile, ils n'ont pas le droit de faire preuve de prosélytisme. Mais comment on fait en tant que chrétien ? Même Jésus le dit, dans les derniers temps, vous serez traînés devant les tribunaux, n'est-ce pas? Vous serez livrés. Donc il y a forcément des choses qui risquent de se passer qui iront à l'encontre de notre foi. Est-ce qu'on doit l'abandonner? Non, pas forcément. Mais que Dieu nous donne la sagesse dans les temps à venir pour les générations qui vont nous suivre, comment naviguer dans une société qui peut et va certainement devenir de plus en plus compliquée pour les chrétiens. Mais en même temps, Paul dit, pendant le temps que vous avez, malgré les circonstances, faites toujours preuve d'honneur. Payez ce que vous devez, rendez ce que vous devez rendre, mais ne devez rien à personne. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Ensuite, quand il finit cette partie un peu sur les, concernant les autorités, il en vient à parler de la communauté. Pour rappeler un peu le contexte, donc, l'Église de Rome est composée de judéo-chrétiens, donc des chrétiens qui étaient, avant de donner leur vie à Christ, juifs, et puis des pagano-chrétiens, donc des chrétiens qui étaient avant de tradition voilà, gréco-romaine avec des pratiques liées à leur héritage, n'est-ce pas? Et donc, les chrétiens, les judéo-chrétiens, eux, malgré leur conversion, restaient attachés à la loi, à toutes les prescriptions. Et dans l'Ancien Testament, notamment dans Lévitique 11, on a plein de restrictions alimentaires, où Dieu dit, voilà, vous ne pouvez pas manger de tel animal parce qu'il est impur, faire certaines choses. Et donc, malgré leur conversion, ces Juifs veulent garder un attachement précis à la loi. Aussi, parce que dans le monde gréco-romain, il y a certaines viandes qui sont sacrifiées aux idoles, en fait, ils refusent de manger ces viandes-là. Donc, ils ont peur de devenir impurs, donc ils refusent de manger ces viandes-là. Ils sont aussi attachés aux fêtes, au Shabbat, à différentes fêtes juives. Certaines fêtes sont en lien avec le fait de devenir pur, alors que Jésus a tout accompli, n'est-ce pas? Mais ils restent attachés à cette tradition. Et en parallèle, ces pagano-chrétiens, eux, mangent de tout. Ils ont quand même un peu compris ce que Jésus-Christ avait accompli, mais en lien aussi avec la liberté qu'ils avaient avant, eux ne sont pas attachés à la loi. Donc ce qui fait que dans leur rapport, dans leur communauté, les pagano-chrétiens commencent à mépriser les juifs, en disant qu'ils sont faibles, qu'ils sont immatures. Ils n'ont pas très bien compris que là, c'est bon, on peut tout faire, on peut tout manger. Donc ça crée forcément un manque d'amour, parce que le mépris, ce n'est pas de l'amour, et forcément, ça crée des divisions. Donc l'unité de ces communautés est menacée. Je vous montre une petite photo. C'est vrai qu'on n'avait pas pu faire forcément de feedback par rapport à cette soirée. Il y a quelques semaines, nous vous avions présenté la soirée pour les jeunes adultes qui s'appelle Parlons Vrai. On a fêté la 10e soirée le 31 octobre ici, sur le thème des drogues et des addictions. Donc c'était une belle célébration. Il y avait beaucoup de personnes ici. On était entre 70 et 80. Majoritairement, c'est pour les jeunes adultes, donc majoritairement des jeunes adultes. Et puis les différents intervenants ont pu témoigner de leur vécu en lien avec les drogues et les addictions. Et puis, cette soirée m'a rappelé un événement. Okay. Il y a quelques années, dans la communauté, on avait fêté un nouvel an. Et puis, à la fin de ce nouvel an, donc on commençait à ranger, à nettoyer, etc. Et puis, j'ai trouvé un jeune homme ici qui était totalement ivre. Mais totalement ivre. Et puis, voilà, il s'est retrouvé ivre dans des circonstances qui auraient pu être évitées, mais il s'avère que dans le cadre du Nouvel An, dans la communauté, de l'alcool avait été servi, ce qui est voilà, habituel aussi ici. Et donc, ce jeune homme qui avait été invité par des personnes extérieures qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient en cheminement, avait décidé de boire parce que lui est alcoolique, et donc il s'est retrouvé ivre. Et donc, ça m'a meurtri, parce que je me suis dit, voilà, l'église, normalement, c'est un endroit safe où chacun peut venir tel qu'il est. Et donc, je me dis, ces circonstances auraient pu être évitées. Mais malheureusement, c'est arrivé. Alors, moi, je ne suis pas contre l'alcool, n'est-ce pas? Mais moi, ce n'est pas important trop mon avis, n'est-ce pas? Mais la Bible n'est pas contre l'alcool. Le premier acte de Jésus, c'est l'eau en vin, n'est-ce pas? Même Paul recommande à Timothée de boire un peu de vin pour calmer ses aigreurs. Donc, il y a des bénéfices aussi peut-être médical, en tout cas, c'était considéré comme tel à l'époque. Mais la Bible n'est pas contre l'alcool en tant que substance, elle est contre l'excès. Donc, contre les beuveries, contre, disons, l'ivresse de manière générale. Pourquoi? Parce que ça remet en question la capacité d'être dans une maîtrise de soi, n'est-ce pas? De perdre sa capacité de discernement. Et donc Dieu veut qu'on suive des chrétiens qui puissent marcher droit. Et quand on est libre, on ne marche pas droit, par principe, n'est-ce pas? Donc suite à cet événement-là, j'étais vraiment meurtrie, j'ai dû m'excuser envers cette personne et les personnes qui l'avaient invité, parce que c'était aussi de ma responsabilité, qui était responsable aussi de ce temps de Nouvel An. Et donc l'année qui a suivi, je me suis dit, mais en fait, souvent les Nouvel An, on aime amener des gens ici, on aime les inviter. Et les gens ne connaissent pas Christ. On ne sait pas avec quoi les gens luttent à l'extérieur. Donc j'avais proposé que pour ce Nouvel An-là, on ne serve pas d'alcool. C'est plus simple. Pour moi, ce n'était pas un enjeu énorme. Et du coup, j'ai cru comprendre que ça pouvait empêcher certaines personnes de venir, qu'il n'y ait pas d'alcool. Du coup, je me suis dit, c'est pas le but, c'est dommage. J'ai dit, mais comment on fait? Parce que peu importe ce qu'on fait, forcément, il y a des gens qui ne seront pas contents, n'est-ce pas? On ne peut pas plaire à tout le monde, mais le but, c'est de pouvoir vivre des célébrations où tout le monde peut être à l'aise, n'est-ce pas? Et donc, en lisant Romains 14, je vous lis ce qui m'a été inspiré. Okay, on reviendra après sur la photo. Donc, de 14 à 22. C'est Paul qui continue, il dit « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un se considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Versets 19 à 22. « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui est peut-être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. » Alors, en lisant ça, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on en retire concrètement? Parce que si maintenant, dans l'Église, on décide d'enlever absolument tout ce qui est une occasion de chute pour tout le monde, en fait, il ne se passe rien. On vient dans un bâtiment complètement blanc, il n'y a pas de chaise, on est tous par terre, et puis on loue le Seigneur de manière très ascétique. Donc comment on fait si on doit se priver de ce qui est un problème pour absolument tout le monde? Et puis, je me suis dit, en fait, ce n'est pas forcément ça le problème. Parce que là, dans le cadre des Romains, c'est une question de oui, ce qui est impur, ce qui est impur. Là, ce qu'on a vécu au Nouvel An, c'est plus une occasion de chute pour les autres. Ce que suggère Paul, c'est exactement la question que Caïn a posée à Dieu quand il lui a demandé « Où se trouve ton frère ?» Il lui a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et la réponse, c'est oui. Dans une communauté, on est gardien des uns des autres. Donc le problème, ce n'est pas ce que nous consommons, mais de se dire que pour que l'Église demeure ce qu'on peut appeler une safe zone pour l'ensemble d'entre nous, comment trouver un moyen de marcher au mieux dans la communion fraternelle? Ce qui m'a encore plus fait mal, c'est que durant cette soirée, je remets la photo de Parlons Vrai, à la base, on avait choisi cette thématique de drogue et addiction en pensant pouvoir accueillir le maximum de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et puis finalement, il y avait une majorité de chrétiens présents à cette soirée, plus du deux tiers. Malgré tout, donc on avait un système de participation en live, et donc les gens pouvaient poser des questions et demander voilà, des choses aux intervenants, et que je recevais sur mon téléphone. Et j'ai été tellement étonnée du nombre de chrétiens qui vivent avec des défis d'addiction, mais de toutes sortes. De toutes sortes. On a parlé de drogue, d'addiction, il y avait des questions sur la boulimie, encore sur la pornographie, sur tellement de sujets. Et moi, je m'étais dit, bon, la question du Nouvel An, moi, j'ai pensé aux gens qui venaient de l'extérieur. Que je me dis, ben, peut-être c'est eux qui ont vraiment des défis de fou. Mais en fait, non, même dans l'Église. Et ce n'est pas marqué sur le front de quelqu'un que j'ai un défi avec telle ou telle chose. Alors comment moi, en tant que personne, pas seulement en tant que communauté, en tant que personne, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer d'être un bon gardien pour mon frère ou pour ma sœur? Alors non, certainement, il continuera d'avoir un peu d'alcool dans la communauté, mais je pense qu'on peut vraiment se questionner comment mieux gérer ça, pour éviter que quelqu'un qui ne connaît pas Christ puisse rentrer dans ce lieu et se retrouver à la fin d'une célébration, on a loué, prié, jeûné, se retrouver ivre ici. On a besoin de veiller les uns sur les autres, parce qu'on va encore accueillir des gens, on ne sait pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et nous-mêmes dans la communauté, ce que chacun vit, on ne sait pas. Enfin, des fois, moi, je sais un peu, mais beaucoup, on ne sait pas. Peut-être toi, tu sais aussi, n'est-ce pas? Alors, veillons les uns pour les autres. Donc, le but, ce n'est pas d'instaurer des dogmes, parce que ça, c'était la question des Romains. Les Juifs voulaient, non, mais on ne boit pas ça, on ne mange pas ça, parce que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ça, la question. C'est de vivre la diversité dans la liberté en Christ, tout en restant fondé sur sa parole. Et pour ça, on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour évoluer dans notre discernement, dans sa sagesse, pour arriver à cheminer ensemble. Ce ne sera pas parfait, mais je crois qu'on peut évoluer. Parce que des fois, on a une habitude qui date depuis peut-être des années, mais le monde évolue. Je ne sais pas si vous regardez vraiment comment le monde évolue, mais toutes sortes de défis évoluent aussi. Des nouvelles addictions arrivent. Durant cette soirée, on a parlé essentiellement peut-être d'alcool, de différentes drogues. Mais l'autre jour, je regardais un reportage où des jeunes gens, maintenant, il y a des drogues avec le protoxyde d'azote. Vous savez quoi? On gonfle des ballons. Des nouvelles addictions apparaissent. Comment l'Église fait-elle ou réfléchit-elle pour demeurer à jour? Pas devenir un lieu social parce que d'autres instances s'occupent de ça, mais de rester alerte sur l'état de la société pour être sûr d'être un lieu où toute personne peut se sentir accueillie et sécure, et pas sans arrêt confrontée à des choses qui vont profondément la challenger. Alors peut-être que ce n'est pas un défi pour toi, peut-être que ça l'est pour ton frère. Alors quel est le pas peut-être que tu peux faire, que je peux faire pour lui, dans le Seigneur? À méditer. Continuons un petit peu dans Romains 15. Paul va un peu plus loin. Il dit, nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et j'aime beaucoup parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est les pagano-chrétiens qui se voyaient comme hyper forts, hyper matures. Et il dit au début, nous qui sommes forts, alors que Paul, il est juif, n'est-ce pas? Mais il a compris l'Évangile. Il sait que lui-même a été libéré de toutes ces lois qui ont été accomplies en Jésus. Et il dit, mais que toi qui es fort, ta force, c'est de supporter le faible. Et qu'en tant que communauté, en tant que fort, en tant que personne super spirituelle, j'ai beaucoup de mal avec ce mot, en fait, notre rôle aussi, c'est de supporter, d'amener les autres aussi avec nous. Donc le fait de vivre une vie de sanctification, ça ne dépend pas seulement d'une relation verticale où je vis ma relation avec Dieu, où voilà, je suis super spirituelle, j'arrive à faire telle chose, mais ça concerne aussi les relations les uns avec les autres. D'arriver à se supporter dans les faiblesses, donc aussi de considérer toutes les relations horizontales que nous avons dans la communauté. Et ça demande aussi l'amour à soi. L'amour à soi, ce n'est pas seulement ce que le Seigneur te demande d'abandonner toi pour toi, mais aussi d'abandonner pour les autres. Peut-être que tel programme ne te paraîtra pas hyper spirituel, mais on vit en communauté. Du coup, comment arriver à cheminer ensemble pour aller plus loin et de ne laisser personne derrière, à moins qu'elle le veuille vraiment? On ne va pas se laisser ralentir, on y reviendra un petit peu après, n'est-ce pas? Mais c'est en tout cas le rôle des personnes fortes, c'est de faire monter ou de supporter les faiblesses et de faire monter aussi les autres qui sont peut-être un peu plus faibles avec eux. Parce que le but, c'est qu'on soit tous forts. Ce n'est pas que certains soient forts et d'autres faibles, c'est qu'on soit tous forts. Et ça ne peut pas reposer seulement sur le leadership, ça ne peut pas reposer seulement sur les pasteurs. Moi, comme tout le monde, j'ai 24 heures, j'ai deux bras, deux jambes. Moi, je peux, c'est aussi le rôle, la responsabilité, mais la communion fraternelle, c'est chacun. Vous avez aussi, voilà, il y a des cellules de maison, certains ont tissé des amitiés, ça se vit dans les relations. Ça ne repose pas seulement sur certaines personnes. C'est la tâche et puis presque le devoir de tout un chacun en tant qu'enfant de Dieu. Amen. En parlant de ralentissement, un exemple que j'aime beaucoup, c'est dans Nombre 12. Dans Nombre 12, on a l'histoire, donc le peuple hébreu, le peuple de Dieu est dans le désert. Et à un moment donné, Aaron et Myriam décident de critiquer Moïse. Moïse qui est leur leader, n'est-ce pas? Parce que Moïse avait épousé une femme couchite. Donc les femmes couchites sont d'un peuple qui serait plutôt situé vers l'Éthiopie, n'est-ce pas? Donc on suppose qu'elle avait une carnation différente et que c'est pour ça que ça déplaisait, lié aussi à ces traditions, en tout cas Aaron et Moïse. Donc ils décident de murmurer contre Moïse. Dieu s'énerve, forcément, parce que c'est son serviteur, c'est lui qui l'a établi, c'est lui qui l'a choisi. Et du coup, il décide de frapper Myriam de la lèpre. Et beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi il n'y a que Myriam? Est-ce que ce n'est pas un peu sexiste tout ça? Que c'est marqué Myriam et Aaron? Peut-être pour désamorcer un peu cette tension, sachez que dans l'hébreu, le verbe qui est utilisé pour dire le murmure est écrit au féminin. Donc ça suppose que c'est Myriam qui a instigé justement le fait de murmurer. Il y a d'autres raisons aussi, mais on ne va pas faire trop de théologie, on va s'arrêter là. Et donc, Dieu décide de frapper Myriam de la lèpre. Moïse, alors que c'est lui qu'on critique, décide d'intercéder en faveur de Myriam. Il dit, Seigneur, pardonne-les, parce que c'est pas grave, moi ça me va et tout. Voilà, ok. Mais il y a des conséquences. Et Dieu tient à ce qu'il a décidé. Et voilà ce qu'il dit à Moïse. Il dit, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Après cela, le peuple partit d'Atseroth et il campa dans le désert de Paran. Donc Myriam a critiqué, Aaron aussi. Ils ont critiqué aussi le leadership de Moïse, n'est-ce pas, à cause aussi de sa femme, tout ce qui va avec. Et les conséquences sont qu'elle a été mise à l'extérieur du camp pendant 7 jours et qu'il est dit, le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Je me dis, le murmure d'une personne a ralenti toute une communauté. C'est pour ça que la communion fraternelle, ce n'est pas seulement une histoire de relation. C'est profondément spirituel. À cause de l'erreur de une ou quelques personnes, toute une communauté est ralentie. Donc à cause des paroles, des comportements qu'on a, on a le potentiel d'accélérer aussi, mais aussi de ralentir le mouvement d'une communauté. Ça, c'est une bonne remise en question. De se dire, en fait, quel est moi, ma position, ma posture, ma responsabilité dans ce qui peut se passer dans ma communauté. Quelles sont les implications, pas seulement de mes avis, de mes questionnements, peut-être de mes doutes. Ça peut arriver, c'est propre à tout le monde, c'est pas ça qu'on juge. Mais d'instiger le murmure. Quand on parle de murmure, c'est pas anodin. C'est des critiques qu'on fait dans le dos. On vient semer des choses qui amènent la division. C'est très pervers comme comportement. Et ça provoque des mauvaises choses, le ralentissement de toute une communauté. Dieu avait un objectif. Il fallait qu'il se rende quelque part. À cause du péché d'une seule personne qui s'est répandue, tout un peuple a dû l'attendre, a dû être ralenti. La communion fraternelle, ce n'est pas juste les relations, c'est profondément spirituel. Avançons encore un petit peu. Du coup, Paul, il revient pour nous amener à un autre paradigme de la communion fraternelle. Qu'est-ce qui est bon de vivre dans la communion fraternelle? Dans Romains 16 au verset 3, donc Romains 16 où il fait beaucoup de salutations, il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à être reconnaissant, c'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. » Priscille et Aquilas, donc Prisca et Priscille, c'est le même prénom, la même personne, et Aquilas, sont aussi des chrétiens qui sont responsables d'une église de maison, collaborateurs de Paul, et il dit qu'ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. En grec, c'est encore plus précis, il s'est dit en grec, ils ont exposé leur cou pour mon âme. Un couple a été prêt de se faire décapiter pour sauver Paul, pour que son ministère soit préservé. Pour l'évangile, je ne sais pas si vous vous souvenez de la parole de Jésus qui disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». C'est ça le propre ou l'absolu même de la communion fraternelle. Je ne dis pas qu'il faut maintenant commencer à vouloir se sacrifier pour tout le monde, n'est-ce pas? Là, c'est aussi un contexte particulier, la persécution, etc. Mais c'est ce genre de choses auxquelles ils étaient amenés. Moi, je ne sais pas à quel couple ici, les deux, hein, seraient prêts à donner les deux leur vie pour une personne. Peut-être c'est l'un ou l'autre. Vas-y toi, vas-y moi, cache-toi, rentre à la maison, etc. Mais les deux ont eu leur cou exposé à la décapitation pour l'âme de Paul. Je pense que vous avez un peu suivi depuis ces derniers temps, il y a toutes ces commémorations des attentats de Paris du 13 novembre 2015. C'est l'anniversaire, en tout cas, des 10 ans de ce malheureux événement. Et puis j'écoutais le témoignage d'un survivant qui disait que dans un des endroits dans lequel il avait été aussi spectateur de ce qui s'était passé, il a vu des gens se jeter sous les balles des terroristes pour protéger leurs proches. Je ne sais pas si vous imaginez la dimension. Dans un moment totalement inattendu, où toi tu vas juste à un concert ou aller dans une fête, au bar, boire un verre, d'un coup fusillade. Et tu vois ton proche et ton premier réflexe, c'est que je me jette pour lui. Je me jette pour lui. Et peut-être pas pour leurs proches, hein. Peut-être que d'autres ont voulu se sacrifier pour d'autres. On a entendu plein de témoignages, des gens qui se sont tirés, qui ont pris des corps sur eux, qui sont allés se cacher, des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et je me dis, ok. Pour l'instant, dans l'Église, on n'est pas dans cette dimension, n'est-ce pas? Mais je me demande toujours, qu'est-ce que moi, je suis prêt à donner, à faire, peut-être même à sacrifier pour mon frère, ma sœur, afin que sa vie de foi aussi soit préservée. Je ne parle pas d'intrusion dans l'intimité. Des fois, il y en a qui forcent. Ah, mais comment tu vois, raconte-moi tes problèmes. Il ne faut pas forcer. Si on ne veut pas raconter, on ne veut pas raconter. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Mais vraiment, juste ce cœur de sacrifice. C'est quelque chose des fois qui nous manque dans la société, parce qu'on est très individualiste. Et peut-être même culturellement, on n'aime pas trop déranger. En Suisse surtout, on aime bien respecter l'espace des gens. Et des fois, ça amplifie le côté qu'on devient individualiste, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça coûte vraiment d'essayer d'aller chercher un peu plus loin? Ou peut-être de l'autre côté, d'ouvrir un peu son cœur, de se laisser sauver? Peut-être que les défis que tu vis, tu n'es pas censé les porter toute seule ou tout seul. Pas besoin de les raconter à la terre entière. Mais je suis sûre que dans la communauté, Dieu peut pourvoir à des frères et à des sœurs qui peuvent porter dans la prière tes fardeaux. C'est ça aussi la communion fraternelle. Donner sa vie pour ses amis. Avançons encore avec ces derniers versets de Romains 16. Il dit vers la fin, Paul, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur, en ce qui concerne le mal. » Il conclut en prévenant les Romains. Et en plus, il les prévient de ce qu'ils ont déjà connu. Parce qu'ils savent que dans la communauté, il y a des gens qui cherchent la division, qui causent la division, qui causent des scandales au préjudice de la parole qui a été amenée pour que chacun puisse persévérer dans sa vie de foi et de discipulat. Donc, il les met face à un choix. Il dit, j'ai lâché tout le dogme, tous les fondamentaux. Maintenant, le choix est vôtre. Vous choisissez soit d'alimenter ce qui est bon, soit d'alimenter ce qui est mal. Il y a une direction, qu'on puisse grandir en Christ. Ici même dans la communauté, il y a différents projets, sujets de prière, etc. On a le choix. Soit on alimente, soit on voue à la destruction. On a le choix. Dieu ne force personne. Chacun a le choix. Mon mot aura été prévenu. Quelle est la part que nous désirons jouer? Quand bien même on fait peut-être faux, au moins qu'on puisse se corriger ensemble, mais pas les uns contre les autres. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Et il dit même de s'éloigner de ceux qui créent cela, parce que leur but, c'est de satisfaire leur propre intérêt, leur propre désir, pas le désir de Dieu. Donc oui, nous allons dans une certaine direction, alors ne laissons personne, ni aucune parole nous faire bifurquer, ni nous faire ralentir. On n'a pas le temps, n'est-ce pas? Jésus revient bientôt. On le disait déjà il y a 2000 ans, c'est encore plus proche maintenant, n'est-ce pas? Et chacune de nos vies, on ne sait pas quand notre propre vie s'arrête. On a chanté « Un jour, je n'aurai plus de force ». Moi, je ne sais pas quand est-ce que ce jour sera. Mais après, la mort vient le jugement. Et je veux être sûre d'être vraiment reçue, voilà, comme une servante fidèle, n'est-ce pas? Qui n'a pas été une occasion de chute pour mes frères et sœurs, ni dans l'Église. Alors, c'est une remise en question pour chacun, pour soi, mais aussi en tant que communauté, surtout dans les temps de transition, qui sont toujours très délicats, qui suscitent beaucoup de questionnements, de doutes, et ça, c'est normal. Mais jusqu'à où et qu'est-ce que nous désirons alimenter en tant que personne et en tant que communauté? Est-ce que je peux demander à Donata de revenir? On va prendre un chant. Mais pour terminer, peut-être, le verset qui, à mon sens, vient comme résumer toute la dogmatique ou toute la théologie de Paul dans l'Épître aux Romains. Comme on a dit, il y a ces problématiques de personnes qui veulent continuer à conserver la loi, à vivre selon des choses que Jésus a déjà accomplies, ceux qui se pensent hyper spirituels et qui, du coup, qui veulent avancer, qui ne comprennent pas pourquoi vous faites ça. Finalement, dans le chapitre 13, il dit la chose suivante. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Peu importe les choses que nous désirons accomplir, que nous pensons conformément à la parole de Dieu, si cela vient enfreindre le commandement de l'amour, c'est qu'on fait faux. Alors, moi, je nous invite, et je me comprends bien sûr aussi là-dedans, c'est que tout ce qu'on a pu explorer dans cette thématique des fondamentaux, vraiment de le mettre à l'épreuve de l'amour. Selon le cœur de Dieu, pas l'amour selon ce que le monde nous enseigne, n'est-ce pas? Mais vraiment selon ce que l'amour de Dieu signifie. Est-ce que ça y résiste ou pas? Et vraiment de dire, Seigneur, viens nous visiter. On ne veut pas être déchiré sur des principes, sur des dogmes, mais vraiment être réunis, unis dans ton amour pour aller dans la direction que toi tu veux. Que même si on ne comprend pas vraiment, on décide sincèrement de te faire confiance, de se porter les uns les autres, les plus forts avec les faibles. Des fois les saisons changent, aujourd'hui je suis fort, demain je serai faible, vous allez me porter. Mais au moins qu'on puisse aller dans une direction commune. Et puis si on a vraiment qui ne veulent pas suivre, malgré tout ce qu'on essaye de faire au mieux, on aura vraiment essayé. Ce n'est pas le but, mais c'est des choses qui arrivent, il faut dire aussi la vérité. Mais il y a la terre promise, et moi je veux y aller. Mais je veux y aller avec vous, pas toute seule. Une fête seule, ce n'est pas terrible. Voilà. Un nouvel an, tu viens tout seul ici, minuit, ce n'est pas terrible. On veut le vivre ensemble. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier. Pour clôturer cette thématique, j'avais à cœur qu'on prie, et on l'a prié plein de fois, mais vraiment pour la question des murmures. C'est quelque chose qui est revenu tellement de fois dans cette communauté. Mais j'avais à cœur qu'on puisse prier une bonne fois pour toutes. Vraiment. Et qu'après, c'est fini. Puis si, il y a certains qui veulent continuer, mais ce sera, voilà, ce sera sans nous. Ce sera derrière, amen. Une bonne fois pour toutes. et que chacun regarde à son cœur. Je dis ça, je ne m'exclus pas, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, voilà, tu veux enlever la paille, regarde ta poutre. Chacun sait ce qu'il a aussi médité dans son cœur, ce qu'il a dit. Je vous invite vraiment à vous laisser sonder par le Seigneur. Et Saint-Esprit, maintenant, viens vraiment nous sonder et vraiment révéler à nos cœurs, Seigneur, quels sont les endroits où nous devons peut-être abandonner le murmure, Seigneur. Tu connais, Seigneur, peut-être les désirs personnels, les questionnements, les doutes. Et Seigneur, on veut te les remettre. Mais je prie que chacun, on puisse vraiment se regarder à la lumière de ta parole, Seigneur. Et te remettre, Seigneur, tout ce qui a pu être fait, dit ou pensé de faux par le passé. Afin qu'on puisse vraiment aller de l'avant en toute liberté et en tant que communauté, marcher de manière unie pour ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, en ce sens, vraiment je te demande pardon. Et tu peux aussi élever ta voix, simplement demander pardon, Seigneur, si tu sais qu'il y a des choses qui te montent à l'esprit. Il ne s'agit pas de viser la prière vers quelqu'un en particulier, mais il est dit, ça peut être aussi dirigé contre Dieu. Et si ça fait sens pour ta vie, simplement de répandre vraiment ces choses aux pieds de Jésus. Et oui, Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où ma bouche a murmuré, Seigneur, contre toi. Dans mes incompréhensions, mes doutes, Seigneur, que je n'ai pas su les exprimer, Seigneur, de la bonne façon, mais les ayant nourris, Seigneur, par l'orgueil, Seigneur, par la douleur, peut-être les blessures, Seigneur, j'ai mal agi. Et j'ai mal agi contre toi, Seigneur. Et je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment que tu viennes vraiment renouveler mon intelligence, comme ça a été aussi partagé la semaine passée, Seigneur. Viens renouveler mon intelligence, viens renouveler notre intelligence en tant que communauté, Seigneur. Nous voulons connaître ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, Seigneur. Nous savons que tu as des projets de bonheur pour cette communauté ainsi que pour nos vies respectives. Tu connais les défis de chacun. Nous avons besoin d'être remplis de ta pensée, d'être remplis de ta vérité, Seigneur, d'être remplis de ton amour, Seigneur. Pouvoir avancer de la bonne manière selon ton cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas éviter ta correction, mais la recevoir pleinement, parce que c'est une grâce, Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas fini, que tu as encore des projets, qu'on peut encore aller de l'avant, Seigneur. Alors viens peut-être nous corriger. Quels sont les endroits où on n'a peut-être pas compris, fait faux, Seigneur. Viens nous aligner vraiment à ta volonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, conduis-nous dans les voies de l'éternité. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble, juste prier, que le Seigneur vraiment nous conduise dans toutes ces voies. Seigneur, tu connais, Seigneur, les voies, Seigneur, que tu as, même que tu as préparées d'avance, Seigneur, les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions, Seigneur. Ces œuvres ont des voies, Seigneur, et nous voulons les prendre, Seigneur. Tu sais peut-être là où nous avons peut-être dévié, mais toi je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tu viennes nous conduire, Seigneur, sur tes voies, Seigneur, les voies de l'éternité, les voies qui nous conduisent vers ton éternité, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur, pratiquer tes œuvres, accomplir ta volonté, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne permets pas que nous soyons ni ralentis, ni précipités, Seigneur, mais que nous puissions marcher dans les temps que toi tu as fixés, Seigneur, pour notre communauté et pour nos vies respectives, Seigneur. Merci parce que tes voies sont parfaites, Seigneur. Tes desseins sont parfaits. Et c'est ce que nous voulons prendre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Comme on l'a prié aussi, comme on l'a entendu aussi, il était beaucoup question d'amour. Je crois qu'on a besoin d'amour, de le recevoir pour le manifester. J'aimais beaucoup, il y a une personne qui m'encourageait par rapport au ministère et qui me disait, mais Sidi, considère que le ministère, c'est le débordement de ce que tu vis intimement. C'est pas juste quelque chose que tu fais alors que tu es vide. Ça doit être le débordement de ton intimité avec Dieu. Et le fondement de l'intimité avec Dieu, c'est vraiment l'amour et on en a besoin. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Tout ce qu'on fait, c'est en vain. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Amen. Est-ce qu'on peut élever les mains ensemble pour vraiment être rempli de l'amour de Dieu? Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Parce que tu viens nous remplir de ton amour, Seigneur. On a besoin de ton amour pour vivre. On a besoin de ton amour pour marcher, Seigneur. Et nous voulons disposer nos cœurs pour recevoir ton amour. Je prie vraiment pour un débordement de ton amour en nous, Seigneur. Un amour pour qui tu es, pour ce que tu fais, Seigneur, pour ton œuvre. Alléluia, Jésus. viens déverser ton amour dans les cœurs, Seigneur. Que nous puissions jamais marcher à vide, mais toujours en étant remplis de toi, Seigneur. En ayant à cœur de te plaire à toi, de ne pas plaire à quelqu'un, mais de te plaire à toi. De ne pas plaire à nos propres désirs, mais de te plaire à toi, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Et que le débordement de cet amour soit celui que nous avons les uns pour les autres, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à soutenir ceux qui sont plus faibles, Seigneur. Et si nous sommes faibles, à recevoir à l'amour, Seigneur, de nos frères et sœurs. Seigneur, merci parce que tu viens guérir un cœur ce matin. Tu viens restaurer, Seigneur, quelqu'un qui est peut-être meurtri, qui se sent peut-être seul, même dans la communauté, qui se sent seul, Seigneur. Vraiment, viens consoler, Seigneur, et ouvre-nous les yeux sur les gens qui nous entourent, Seigneur, dans la communauté. Que personne ne puisse marcher seul, Seigneur. Rends-nous attentifs à celui qui est à notre gauche, à notre droite, Seigneur. Que personne ne puisse être laissé derrière, indépendamment de notre volonté, Seigneur. Seigneur, vraiment, agis. Aide-nous. Est-ce que quelqu'un veut prier, élever la voix pour bénir le Seigneur, bénir son amour? Seigneur, merci Seigneur pour de nous avoir conduits, Seigneur, dans toute cette thématique, Seigneur. Je prie vraiment que ce qui a été fondé, enraciné en chacun d'entre nous demeure ferme, Seigneur. Qu'on puisse continuer, Seigneur, à bâtir, Seigneur, pour ton royaume, en étant vraiment fondé d'un accord commun, Seigneur, sur les mêmes bases, Seigneur. Et c'est toi notre solide rocher. C'est sur toi qu'est fondée, Seigneur, l'Église, et c'est sur toi qu'est fondée cette communauté, Jésus. Seigneur, je prie encore que tu nous bénisses, Seigneur, que tu nous accordes ton discernement et ta sagesse pour connaître, Seigneur, les choses à venir. Donne-nous ce discernement des temps, Seigneur, dans ce temps de transition. Je prie que tu nous donnes vraiment un discernement pour comprendre la saison et celle à venir, que tu nous montres la direction à prendre et où se trouve, Seigneur, la terre promise. Viens parler à nos cœurs. Bénis les responsables de cette communauté. Couronne-les vraiment, couronne-nous de sagesse, de discernement, Seigneur. Et je prie que chaque membre de la communauté soit aussi couronné de sagesse et de discernement, Seigneur. Que chaque jour, on puisse avoir une intelligence renouvelée en toi, Seigneur. Que chaque jour, notre amour soit aussi nourri à cause de ton esprit, pas par nos propres forces. Oui, Seigneur, nous voulons sceller fermement, Seigneur, tout ce que nous avons reçu, afin que ta gloire, Seigneur, soit manifestée au milieu de nous, aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen.